bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour Prestart Battle, le 8ème de sa série. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait déjà commencé la semaine dernière avec notre podcast Sega sur la Master System et la Mega Drive et la Game Gear plus principalement, mais sur la première partie de la vie de Sega en tant que constructeur de consoles. Et cette semaine, on vous donne la deuxième partie. Et dans ce podcast, nous parlerons donc de la Saturn, un petit peu de l'arcade, de la Dreamcast et beaucoup de la Dreamcast, qui est la dernière console de Sega. Et de la suite, c'est-à-dire de Sega sur le multi-support, chez les autres constructeurs, donc ce qu'ils ont fait après, et on va parler un petit peu, essayer de débattre sur ce que nous réserve l'avenir de Sega. Peut-être une nouvelle console, peut-être un rachat par Microsoft, on va en parler à la fin. Alors, donc pour ce faire, j'ai avec moi, comme d'habitude, Zélan, le rédacteur en chef.
Salut.
On a Prince of Persia, Pop, notre rédacteur. On a, comme la semaine dernière, on a invité quelqu'un qui s'y connaît pas mal sur la vie de Sega. Et on a un invité qui s'y connaît vachement en Dreamcast et qui c'est une passion pour lui. Nous avons Fredo.
Salut.
Voilà. Alors, donc on va commencer ce podcast donc par la Saturn, donc la suite logique. Donc après la mort de la Mega Drive, elle n'était pas tout à fait morte, mais Sega décide de lancer une nouvelle console, la Saturn. Alors, la Saturn, c'est déjà un sujet qui porte à controverse parce que il y a les pro-Saturn, il y a les anti-Saturn. Il y en a qui aiment pas du tout, il y en a pour qui ça a été une déception, il y en a pour qui ça a été vraiment une des meilleures consoles. Et ben, on va savoir tout ça. Donc, quelqu'un, est-ce que tu peux me rappeler combien de bits faisait la console?
32
bits. Donc, pour l'époque, c'était assez peu comparé à la Nintendo 64 et à la PlayStation. Donc,
c'est aussi 32 bits, non?
La PlayStation, c'était aussi 32 bits.
D'accord.
Oui, et la 64 est sortie 2 ans plus tard, surtout.
D'accord, ok. Donc, comme
elle
ça.
Avait le double de bits.
Voilà. Donc, comme on le rappelle, on parle de bits de puissance, bien sûr.
Oui.
Pas de mauvais jeu de mots. Au niveau puissance, la Saturn, qu'est-ce qu'elle donnait par rapport aux autres consoles, par rapport à la PlayStation, par exemple, qui était son principal ennemi à l'époque?
C'était une vraie bande d'arcade au niveau de la 2D. Les effets 2D étaient vraiment magistraux dessus. La qualité de l'image était géniale. Mais par contre, là où la Saturn a pêché un peu à ce moment-là, c'était la 3D qui était vraiment baveuse à côté de celle de la PlayStation ou surtout de la 64.
D'accord, donc on peut retenir que la 3D était assez... Oui, c'est vrai que la 3D était pas vraiment au top sur la Saturn, mais il y avait quelques beaux jeux 3D quand même.
Mais il y avait Sonic Air qui était pas mal quand même, avec une bonne fluidité au niveau des actions, je trouvais. Mais c'est vrai que au niveau 3D, le problème c'était pas vraiment la puissance, mais c'était qui était difficile, l'architecture de la console était vraiment très difficile à manier.
Mm-hmm.
Et forcément, quand une architecture est difficile à manier, forcément, on a beaucoup plus de difficultés à faire un beau jeu.
C'est vrai que la programmation sur Saturn était assez compliquée à faire et le rendu était pas toujours ce qu'on attendait des jeux de l'époque, quoi. Quelqu'un, t'as quelques précisions par rapport à ce comparatif?
Non, dans l'ensemble, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Pop. C'est, je pense, la même chose. Son problème, c'est surtout son architecture. C'est vrai qu'elle est, le fait qu'elle ait deux processeurs principaux la rendait très difficile à programmer. Et elle a été souvent sous-exploitée à cause de ça, notamment au niveau 3D, et voilà.
D'accord. Et donc, la PlayStation, elle n'avait qu'un processeur principal, c'est bien ça?
Elle était assez facile à programmer, il me semble bien. Donc, c'était vraiment son atout. Et aussi le fait qu'elle soit assez puissante pour la 3D.
C'est pour ça que les éditeurs préfèrent faire des jeux sur PlayStation que sur Saturn. Et c'est pour ça que la Saturn est assez... a une ludothèque pas assez riche par rapport aux autres consoles de l'époque. Donc voilà, alors... Au niveau donc 3D, ça merdait un petit peu, mais il y a quand même eu des très très beaux jeux 3D. On peut noter par exemple Knight, ou encore, donc comme l'a dit Pop, Sonic Air, qui étaient vraiment des très bons jeux.
Il y avait aussi Sonic Jam, quand il est sorti, il avait un petit univers, en fait, le Sonic World. qui était en 3D, qui était très très beau.
D'accord. Ok, moi je me souviens de jeux, pour citer un petit peu les jeux cultes de cette console, je me souviens d'un jeu qui s'appelait Panzer Dragon. Qui avait une 3D extraordinaire et qui c'était une sorte de shoot'em up à deux dragons en 3 dimensions.
Un rail shooter, ouais. Très très bon rail shooter d'ailleurs.
Voilà.
Okay. Qui a connu pas mal de suites d'ailleurs.
Oui, oui, il y en a
dont
eu 3
sur Saturn.
Voilà.
Ouais, exactement. Ouais. Dont un RPG, si je me trompe pas, que j'ai jamais essayé, qui est Hazel Panzer Dragoon. Enfin, il a plusieurs noms en fonction des pays, je crois. Et Panzer Dragoon 2, tout simplement. Qui sont tous les deux sur Saturn.
D'accord. Il n'y a pas vraiment eu de suite après.
Il y a eu Panzer Dragoon Horta sur Xbox.
Mm-hmm. Et ça donnait quoi?
C'est une autre histoire. Il est magnifique. C'est vraiment une merveille. Le digne successeur des Panzer Dragoon sans aucun problème.
Ok. Vraiment... Et bah, je pense que ce sont des jeux à essayer. Alors pareil sur Saturn, moi j'ai eu plusieurs jeux cultes comme un petit jeu qui s'appelait Bug. Avec c'était une sorte de mélange entre de la 2D et de la 3D, c'était les prémices du moteur qui devait servir à Sonic Extreme. Alors Sonic Extreme, on va en parler un petit peu plus après. Mais qui était un jeu c'était de la 3D assez linéaire et c'était assez joli. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le cas Sonic Extreme. Alors...
Donc oui, en effet, Sonic Extreme était prévu pour sortir sur Saturn, mais il a été annulé pour diverses raisons.
D'accord, donc oui, c'était par faute de moyens, il me semble, et c'était pas de la Sonic Team qui était sur le développement. Il me semble que c'était Traveler Tales, je suis pas sûr. Donc voilà, alors quelqu'un a d'autres jeux sympathiques sortis sur... Vas-y, Pop. Virtua Fighter 2,
ouais, il était génial ce jeu. Je me rappelle des effets, il était réussi et tout. Et niveau jeu de course, il y avait Daytona USA qui était pas mal, mais ça n'avait rien à voir avec Ridge Racer de la PlayStation.
Ouais. Ok. Bon, bah voilà. Oui ?
On peut citer Virtual On aussi, qui est sorti sur. Qui est un portage de l'arcade.
Mm-hmm.
Qui est un jeu de combat de mecha avec. Plusieurs. Plusieurs robots qui en combat un contre un, qui est vraiment un gameplay assez inouï, qui joue avec deux gros sticks normalement, et Sega a sorti une imitation en fait du pad arcade pour la Saturn, le Twin Stick ça s'appelle.
D'accord. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu d'accessoires de ce type. Déjà la manette, c'était une réplique de la manette de Mega Drive, mais avec beaucoup plus de boutons, il me semble.
32 ici, plus exactement.
Voilà. C'est exactement ça. Et donc, il y avait divers manettes, divers pads différents. Donc. C'était assez simple.
La manette analogique qui est sortie pour Knights,
mm-hmm.
Qui incorporait un stick analogique, en fait, mm-hmm. avant la PlayStation ou la 64.
Alors.
Et qui permettait des contrôles en 3D.
D'accord.
Pour rester dans les accessoires un peu particuliers, on a des multitaps aussi qui sont sortis pour Bomberman, qui ont d'ailleurs une forme de tête de Bomberman, et qui peuvent permettre de jouer jusqu'à 10 à Saturn Bomberman. Je crois bien que c'est le seul Bomberman où on peut jouer à autant, et c'est vraiment une particularité de la Saturn.
Ok. On a oublié de préciser aussi que la Saturn est sortie en 95 en Europe. Donc c'est 94 dans le reste du monde et 95 en Europe. Et que donc c'est à peu près 6 ans après la Mega Drive. 6-7 ans. Donc voilà.
Avec alors, tous les Mega CD, 32X, il y a eu entre qui sont. Ouais.
Voilà. Ouais. Donc peut-être c'était trop rapide. Et on va en parler d'ailleurs. On va essayer de savoir parce que. Là, Sega Saturn a été quand même un gros échec commercial pour Sega. Ça a été le début de, un petit peu le début de la fin. Oui, voilà. Parce que, alors déjà, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, pourquoi ça a été un échec commercial? Est-ce que la console est sortie trop tôt? Est-ce qu'il y avait, peut-être qu'il était trop compliqué pour programmer de jeux, donc il n'y avait pas assez de jeux?
Il y a une notion, quelque chose qui est assez clair là-dessus. C'est tout simplement la ludothèque. Parce qu'en Occident, il faut avouer qu'on a eu une ludothèque très très pauvre comparé à la ludothèque japonaise, qui comprend un nombre hallucinant de portages de jeux arcade de très grande qualité et de jeux propres à la station de très grande qualité, qui sont jamais sortis de l'archipel. Et c'est vraiment dommage de pas avoir eu ça, contrairement à la PlayStation qui avait vraiment de très bons jeux en Europe. Voilà.
Ok.
Et écoutez, il y a aussi le prix, quoi, parce que on sait que bon, on va convertir en bar à restaurant.
C'était 500 euros au moment de sa sortie, en fait.
Ouais, plus de 3000 francs. Alors que, à côté de ça, la PlayStation, elle valait 1000 francs de moins. Donc, forcément, ça faisait.
Ouais, c'est vrai que.
Cher.
Ça a fait la différence, en fait.
Ouais.
Puis la PlayStation, elle en foutait plein la vue, quoi, avec ses 3D que la Saturn n'arrivait pas à suivre, quoi. C'est.
Et pourtant,
c'est triste à dire, mais c'est la réalité, quoi.
Voilà, oui, c'est sûr, mais en même temps, c'était quand même une bonne console parce que, enfin, c'était quand même une des dernières consoles avec la Dreamcast dont on va parler plus tard, mais à faire des jeux vraiment originaux. C'est-à-dire, il y avait vraiment des nouveaux concepts et tout, alors que, bon, la PlayStation, ça restait dans ce qui allait être les bases des jeux 3D, quoi.
Bah oui, mais
en fait, la
tout
Saturn,
était
c'est
inventé, quoi.
C'est de l'arcade avec Sega, quoi. C'est-à-dire pratiquement tous les jeux c'est des portages de version arcade.
C'est pas faux, mais faut dire qu'aussi Sega au départ sont spécialisés dans l'arcade.
Puis aussi Sega ont délaissé, ont pratiquement complètement délaissé leur mascotte avec la Saturn. Donc,
oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand jeu Sonic à part le Sonic 3D qui était déjà sur Mega Drive.
Sur Mega Drive.
Voilà. Qui était juste un peu plus beau et avec des musiques un peu plus belles, mais sinon.
En fait, Sega avait réussi à bien s'imposer avec Sonic en sortant sur Mega Drive et sur Master System, ça avait bien boosté les ventes. Et sur Saturn, ils l'ont complètement délaissé, donc forcément, déjà, il n'y avait pas Sonic pour aider, quoi. Les jeux Sonic qui sont sortis, c'est Sonic 3D, Sonic R, et Sonic Gem.
Voilà, exactement.
Peut-être le succès de la Mega Drive l'a un peu joué contre la Saturn, parce que la Mega Drive, sur la fin, elle se vendait très bien. Et quand même, sur certaines semaines, elle se vend plus que la Saturn. Et en fait, c'est peut-être de sortir, comme t'as dit, Mekki, la Sega Saturn un peu trop tôt. Parce que on imagine rien qu'ils l'auraient sorti un an plus tard. Ils auraient eu plus de facilité pour développer dessus, ils auraient peut-être développé de meilleurs jeux pour la sortie, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ils ont sorti la console un peu.
Mais il y a surtout que la Saturn aussi, elle est sortie la même année, alors pas pour l'Europe parce que l'Europe c'est en 95, elle est sortie la même année que la 32X.
Mm-hmm.
Ils ont sorti la 32X à même pas un an d'intervalle.
Ouais, donc gros échec commercial pour Sega.
Donc forcément, en fait, ils ont fait deux échecs commerciaux à la suite.
Ouais. Vous voulez sortir
la Saturn était très très proche niveau capacité, vu que c'est le même processeur qu'elles avaient.
Ok.
Les fous voulaient quand même sortir la Neptune, qui était un croisement de 32X et de Mega Drive. Mmh. Heureusement qu'ils ont gardé ça dans leur tiroir d'un certain côté, parce que bon, les pauvres étaient déjà au bord du gouffre.
On a oublié de préciser, mais la Saturn était déjà la première. Enfin. La première vraie console, on va dire, pas un add-on, a fonctionné sur CD et sur cartouche. Parce qu'il y avait un port cartouche aussi sur la Saturn, il me semble.
La colisse,
oui, mais...
Pas pour les jeux, si je me...
Si, certains jeux s'en servaient comme cartouche de RAM. Comme, de mémoire...
L'Expansion Pack.
King of Fighters 95, je sais, a une cartouche particulière dans laquelle, je crois, il y a certaines choses qui sont chargées. Fait une cartouche de RAM particulière à lui. Il y a d'autres cartouches de RAM génériques qui peuvent être utilisées pour plein de jeux, notamment des portages Neo Geo, et qui permettent de charger beaucoup plus facilement les jeux.
Alors voilà. Alors j'ai sous les yeux, tout à l'heure on a parlé des manettes. Il y avait une sorte de manette aussi, qui ressemblait très fortement à la manette de la Dreamcast.
Qui était particulièrement laide, ceci dit en passant.
Voilà, qui était beaucoup plus laide. Voilà, mais voilà la grosse manette avec un stick. Voilà.
Ah, elle est immonde celle-là, je déteste. Je suis désolé, mais je dois avouer qu'elle est vraiment moche et la maniabilité est pas au top. D'habitude, Sega, à partir de la Mega Drive, leur point fort, justement, c'était la maniabilité de la console qui était les premières à bien s'adapter à la main. Mais celle-là, en plus, quand j'y ai joué, j'avais 8 ans. C'était vraiment une horreur pour ma petite main. C'est une horreur.
Ok, mais c'est vrai que c'était plus pour les hardcore gamers. Donc
c'était
voilà.
Surtout pour Knight, quoi.
Oui, aussi.
C'est pour cette, ce jeu qu'ils ont sorti cette manette. Quoi.
Pour pas dire que pour Knight, tout simplement, d'ailleurs. Oui.
Alors voilà, alors donc, on a bien parlé de la Saturn, là, mais on a dérivé un petit peu sur l'arcade tout à l'heure, et je voudrais qu'on en parle un petit peu, parce que Sega, au départ, c'est l'arcade, et on va faire une petite parenthèse sur Sega et l'arcade. Et je crois que Kekin et Fredo sont assez renseignés sur le sujet.
En ce qui concerne la Saturn, elle est très proche, assez proche techniquement, si je ne me trompe pas, de deux modèles arcade de Sega, mm-hmm. qui sont, si je dis pas de bêtises, le modèle 2 pour la 3D et le STV pour la 2D, j'espère pas dire de conneries, qui sont donc très proches de la Saturn. On retrouve pas mal de portages de ces jeux, des jeux de ces cartes arcade sur Saturn, notamment le célèbre Radiant Silvergun qui est sorti mm-hmm. sur STV et qui a été porté donc avec brio vu que c'est techniquement très proche sur Saturn. Et la ludothèque Saturn est énormément. Énormément de portages de jeux arcade. Mais
moi, ce que j'aurais bien voulu qu'on parle de l'arcade en elle-même isolée, c'est-à-dire sans parler des autres consoles, mais. Toute l'histoire de Sega à travers l'arcade, c'est-à-dire
comme le Sega modèle 1 et le Sega modèle 2.
Voilà, mais surtout principalement des jeux phares qui sont sortis sur arcade, qui sont peut-être sortis après sur d'autres consoles, mais qui au départ étaient.
On retrouve House of the Dead, Sega Rally Championship,
Time Crisis aussi, non?
Virtua Fighter.
Time Crisis, c'est pas du tout Sega. Hein.
C'est Konami, je crois.
Non, je sais pas, là, j'ai eu un doute là.
Pour les fans de Sonic, il y avait un Sonic là-dessus, c'était Sonic the Fighters.
Et il y avait Sega Sonic the Hedgehog aussi sur arcade.
Ouais.
Oui, avec une trackball,
oui, assez sympathique. Particulier mais sympathique comme jeu, ouais.
Nous, c'était une sorte de jeu de poursuite où il fallait éviter des objets, sauter, se baisser, enfin, et se déplacer.
Ça a été émulé, ça, comme jeu?
Oui, à mon avis, oui, ça a été émulé.
Ouais, MAME le gère.
Matrix émule.
Après, voilà, faut avoir une trackball pour vraiment en profiter. Et même là, faut que la trackball soit bien gérée.
Voilà.
C'est pas toujours évident. Le mieux, c'est vraiment trouver l'original. Et ça, c'est pas évident du tout non plus.
Voilà. Alors, on peut aussi parler de jeux comme Virtua Fighter qui, au départ, était sur arcade.
Bah oui.
Virtua Fighter, tout premier jeu de combat en 3D. Totalement géré en 3D. Et de la vraie 3D, hein, pas de la 3D à la Tekken, où c'est de la 3D sur un plan 2, c'est de la vraie 3D où on pouvait se déplacer sur le ring à la manière de Soul Calibur.
Oui.
Donc
aussi
voilà.
On peut citer Virtua Striker, qui est la série de jeux de foot de Sega, en fait,
mm-hmm.
qui était des bandes d'arcade qui sont d'assez bonne qualité, c'est marrant, c'est facile à prendre en main.
Puis Samba de Amigo, c'était de l'arcade aussi, ça, au départ.
Oui, bien sûr.
C'est... Le jeu de la Sonic Team, ouais, d'ailleurs.
Voilà. Il y avait. Bon, après, ces gars, ils ont fait beaucoup d'arcade aussi anciennement, comme y avait les Afterburner, c'était Sega, ça aussi. Enfin, c'était AM2.
Voilà.
AM2 qui est un studio qui dépend de Sega, c'est bien ça.
Oui, il y a eu beaucoup de Virtua Striker.
Oui, il y en a eu des masses. C'est comme tous les Street Fighter. Hein.
Y avait aussi Daytona USA, qui est un chef-d'œuvre de l'arcade.
Ah oui. Qui était jouable avec un peu comme Sega Rally aussi, avec deux cabinets qui se relient.
Voilà.
On joue l'un contre l'autre. C'est sympa. C'est aussi facile à prendre en main. C'est du NASCAR en fait, plus ou moins.
Mm-hmm.
Et c'est des jeux très fun. J'ai eu l'occasion d'y jouer il y a pas longtemps.
Ouais, c'est un jeu auquel j'ai joué aussi, qui est très très sympathique. Il faut préciser aussi que Sega possède beaucoup de salles d'arcade, ou possédait. Dont une en France que je vous conseille, qui s'appelait Sega Arcade Store, il me semble, anciennement, et qui maintenant s'appelle La Tête dans les Nuages, qui est à Paris. Trouverez l'adresse.
Tu as déjà dit au dernier podcast.
Voilà, mais ça a été ma toute première salle d'arcade et j'ai joué beaucoup là-bas et j'ai vraiment adoré. Et donc à l'époque, ça s'appelait Sega Arcade, je sais plus quoi. Et donc ils ont ouvert un petit peu partout dans le monde des salles d'arcade comme ça qui leur appartenaient. Donc ils ont dû se faire un bon paquet de fric. Quand on sait que une partie d'arcade c'est deux jetons et que deux jetons ça fait wow beaucoup en euros.
D'ailleurs aussi en fait dans la plupart des grands cinémas, enfin des grandes infrastructures qui fonctionnent bien, par exemple au CGR de Rennes, là, en fait il y a pas mal de bornes d'arcade sur lesquelles il y a bien écrit Sega quoi. Vous pouvez encore jouer à Daytona USA.
Daytona USA, ça doit être le jeu qui doit être dans toutes les salles d'arcade, à mon avis. Dans chaque salle d'arcade, il y a soit un The House of the Dead, soit un Daytona USA. C'est obligatoire. C'est
Sega Rally 2 aussi.
Ouais, Virtua Fighter aussi. Bref, c'est des vieux pieds mais qui fonctionnent encore sur l'arcade. Quoi.
Au niveau des jeux musicaux, Sega, ils n'ont pas trop donné, à part Samba de Amigo.
Faut dire que dans les jeux musicaux, c'est surtout Konami qui a fait le plus gros, quoi.
Bah Konami c'est tous les Dance Dance Revolution, c'est ça?
C'est toute la gamme Beatmania avec les Dance Dance Revolution, les Beatmania, les Taiko no Tatsujin et tout ça, enfin un nombre hallucinant de titres musicaux. C'est vraiment les leaders du genre.
OK. Donc on va passer donc à l'arcade et donc avec la Naomi. Alors quelqu'un va nous expliquer parce que je crois que
alors la Naomi c'est à mon avis, elle doit plutôt être de 97. Je dis ça un peu au pif, mais bon.
Donc la Naomi. En 98 après le Sega Model 3.
D'accord, bah je vais apprendre un truc alors. La Naomi, donc oui, c'est une carte de Sega qui a eu énormément de succès, qui a duré pas mal d'années, qui a servi de prémisse justement à ce qui était la Dreamcast. D'ailleurs, la Dreamcast, c'est une Naomi avec un peu moins de RAM, si je me trompe pas. Ce qui a permis à la Dreamcast justement d'avoir énormément de jeux arcade de très très grande qualité dessus, et ce qui a permis justement d'en mettre plein la vue. D'ailleurs, la Naomi a justement eu plusieurs types de jeux. Elle a des jeux en cartouche et en GD-ROM. C'est de là que viennent les GD-ROM de la Dreamcast, de la Naomi.
D'accord. Alors voilà, ça nous permet de faire une très bonne transition. On va passer donc au plus gros chapitre de notre podcast, qui est la Dreamcast, console mythique, adorée par les joueurs, sous-estimée par beaucoup, mais adorée par les joueurs, qui a fait un gros succès à sa sortie, mais malheureusement qui n'a pas duré, paix à son âme. Et on va parler déjà de la Dreamcast, la présenter un petit peu. Fredo, tu peux nous la présenter un petit peu, la Dreamcast, qu'est-ce que c'est?
Oui,
qu'est-ce qu'elle vaut?
La Dreamcast, c'est la première console 128 bits qui est sortie. C'est la dernière console de Sega, comme on le sait. C'est la première console du marché qui intégrait un modem de série pour le jeu online. C'était une grande révolution à l'époque parce que bon, la Mega Drive et la Saturn avaient déjà un modem vendu séparément, mais il y avait très peu de jeux qui l'utilisaient. Ils utilisaient le support GD-ROM, comme on l'a dit, et qui faisait 1,2 Go de mémoire, je crois à peu près. Et bon, c'était largement plus grand qu'un CD-ROM à l'époque.
Oui, parce que le support DVD n'était pas encore démocratisé, quoi.
Voilà. Mais ça l'a été plus tard, et ça a probablement participé à la défaite de la Dreamcast, on va dire.
Mm-hmm. Malheureusement.
Comme on l'a dit, donc la Dreamcast, c'est une Naomi en plus petit, on va dire. Et énormément de jeux Naomi ont été portés sur Dreamcast, ce qui a contribué à une Logitech arcade assez hallucinante. Voilà.
Ok. Alors on va parler un petit peu de. Tu l'as abordé. On va en parler plus en détail. Donc le fameux système de jeu online, donc qui a fait pratiquement vendre la moitié des stocks de la Dreamcast à son départ. C'était l'argument marketing. C'était le jeu online. Donc je rappelle les slogans de pub français qui passaient à l'époque. Donc 6 milliards de joueurs. Bon, c'était pas forcément vrai, parce que je me souviens d'une fois où j'ai essayé de jouer sur Phantasy Star Online et où je me suis retrouvé avec trois pauvres clampins. Je cherchais les 6 milliards de joueurs partout, moi. Je m'attendais à avoir un gros truc massif. Non, il y avait quatre pauvres clampins. Bon, voilà, mais c'était la première console à le faire. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeux qui se jouaient online. C'était
pas tant que ça, quand même, mais il y en avait. Il n'y en a pas eu autant qu'ils auraient voulu, ça c'est sûr.
Voilà, mais en même temps, il faut dire que à l'époque, en se remettant dans le contexte, en France, l'internet n'était pas encore à des comme actuellement avec des forfaits illimités pour aller sur internet, c'est-à-dire on payait à la communication quoi.
On était voilà. Encore ouais. en 33K.
Et Sega était fournisseur d'accès.
Voilà,
Sega et c'est fournisseur d'accès aussi.
Aussi ouais. Et donc jouer online ça coûtait cher. Et bon, généralement les joueurs Dreamcast n'avaient pas envie de se retrouver avec des factures de alors à l'époque en France, c'était c'était astronomique. Ça, moi, je me souviens de factures de 3000 francs. Donc, des choses comme ça pour avoir joué une heure online. Bon, voilà. Alors maintenant qu'on a les fameux forfaits, quand on ressort sa Dreamcast pour jouer online, enfin, je crois qu'on peut plus. Les serveurs sont fermés.
Non.
Les serveurs officiels. Là, je peux
peut-être apporter.
En fait, il y en a qui fonctionnent encore. C'est Fantasy Star Lake, Quack.
Mais il y a un gros problème, c'est que la Dreamcast, elle gère le 56 et le 33K.
Mm-hmm.
Et nous, on est maintenant une ligne ADSL, et pour faire fonctionner cette Dreamcast sur le réseau ADSL, il faut acheter un BBA. Et ça coûte très cher, ça a été développé pas beaucoup. Et donc là-dessus, c'est pas génial. Mais sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est l'alternative de certains joueurs Dreamcast. C'est demander une ligne de secours à son fournisseur d'accès à Internet. Mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Zélan, il n'y a plus beaucoup de serveurs qui sont ouverts. Mais ça reste quand même un bon plaisir de jouer.
Mmh. Ok. Donc ça, c'était pour le online. J'aurais aimé qu'on parle aussi un petit peu de la puissance de la console. On va déjà commencer par faire un comparatif. De la puissance de la console, la comparer aux consoles qui étaient déjà là quand la Dreamcast est sortie, et ensuite on va le comparer aux consoles qui sont sorties 2 ou 3 ans après, comme la PlayStation 2 et la Xbox. À l'époque c'était la Nintendo 64 et la PlayStation. Il n'y a pas photo, je pense. Je pense que là, on peut dire qu'elle les surpassait largement. Tu seras d'accord avec moi, Fredo ?
Oui, complètement. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté ma Dreamcast après avoir eu la PlayStation, vraiment, ça m'a foutu une méchante claque. Hein. C'est ça, c'est clair, il n'y avait pas photo. La 64, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'y jouer, mais de ce que j'ai vu, quand même, vraiment, c'était autre chose. Quoi.
Oui, c'était largement autre chose quand on voit des jeux comme Soul Calibur.
La Dreamcast était tout simplement 2 fois plus puissante que la 64 et 4 fois plus puissante qu'une PlayStation 1. Donc,
oui, voilà.
Forcément, la différence se sent.
Voilà. La différence se sent.
Quand tu passes de Crash Bandicoot à Sonic Adventure,
ça fait une sacrée claque.
C'est sûr. Quand on passe de Mario 64 à Sonic Adventure aussi, ça fait un choc visuel.
Et quand on pense que Sonic Adventure est que le tout premier jeu de la console.
Voilà, aussi, ouais.
Qu'en espérer pour la suite, quoi. On peut que être émerveillé en attendant la suite.
Bon, après, ça regarde que moi, mais j'ai trouvé Sonic Adventure 2 beaucoup moins beau visuellement que Sonic Adventure. Après, ouais, ça regarde que moi.
Mais... Non, moi non plus. Personnellement, je trouve qu'il est plus beau quand même. Avec des personnages qui sont mieux faits, mieux animés.
Les modèles sont plus jolis, hein.
Ouais, quand même.
Moi je trouve pas. Après, enfin, c'est une question
de caractère. Design, c'est une chose, mais la modélisation est mieux faite malgré tout, quoi.
D'accord.
Dans Sonic Adventure 1, les personnages, ils ont une façon d'articuler les mots qui est vraiment, vraiment tordante. C'est...
Oui. C'est ils ont la bouche qui se tord.
Voilà,
ouais,
c'est ça.
C'est assez balèze.
Mais
c'est assez difficile à décrire comme ça, mais.
Oui.
Et ça puis a vraiment été amélioré dans le 2. Quand même.
Et puis il faut préciser que dans Sonic Adventure, Sonic a des dents.
Bah, il en a
même des dents de vampire d'ailleurs, il a des dents très pointues.
Voilà. Donc donc par rapport à la PlayStation 2, la GameCube et la Xbox, ça donnait quoi au niveau
C'est assez difficile de comparer quand même parce que à part la.
Elle est moins bonne tout simplement.
À part la PlayStation 2.
Je suis pas d'accord. Ouais. La PlayStation 2 est quand même inférieure techniquement sur certains points. Donc,
Moi je dirais que la GameCube est à peu près égale.
Non, quand même, la GameCube est quand même supérieure. Non, la GameCube est quand même largement supérieure.
Ah ouais. GameCube et Xbox, c'est plus puissant. Mais en revanche, la PS2, j'ai des doutes parce qu'il y a des jeux PS2 vraiment laids.
Non, mais par exemple, on peut faire des comparatifs sur des jeux qui sont sortis sur les deux. Virtua voilà, Tennis 2 sur Dreamcast, c'est pas la même chose que Virtua Tennis 2 sur PS2, quoi. Je suis désolé. C'est sur PS2, mais c'est immonde, quoi. C'est là qu'on voit que PS2
y a pas que est celui-là. Gazine. Il n'y a pas que celui-là d'ailleurs, à peu près tous les jeux portés sur PS2, jeux Dreamcast portés sur PS2 sont vraiment beaucoup moins beaux. Notamment Dead or Alive 2,
oui.
Qui a justement, comme il avait quelques modèles en plus, des petits ajouts, est ressorti sur Dreamcast avec ses ajouts pour vraiment avoir le meilleur quoi, du jeu. C'est okay. Quand même un signe, on va dire.
Mm-hmm. Et par rapport à la Xbox.
La Xbox, c'est la plus puissante en fait des consoles.
La Xbox, c'est la next gen à la limite.
Quand même pas. Non, là, forcément, là, évidemment, derrière la Xbox, elle est un peu à la ramasse, mais bon, c'est pas non plus la même génération à ce niveau-là.
Bah, c'est la dernière qui est sortie quand même, la Xbox, par rapport aux autres. Mais bon, je crois, il faut quand même préciser que les meilleurs jeux Dreamcast sont ressortis sur beaucoup de consoles. Pas une précisément, sur la GameCube, la 360. La Xbox, pardon.
L'Xbox. Alors justement, ces jeux, parlons-en un petit peu.
Shenmue 2 est ressorti sur Xbox. Ils ont eu le malheur de le traduire en anglais, ce qui est absolument...
On va un petit peu parler là des jeux qui sont sortis sur Dreamcast, des incontournables, qui sont sortis sur la Dreamcast en cette époque, en cette belle période.
La liste va être longue.
Alors là va falloir... On va prendre un petit peu de temps sur les jeux, parce que la Dreamcast, c'est quand même... une console qui a une ludothèque, il y a pas beaucoup de jeux par rapport aux consoles actuelles, mais pratiquement, je dis bien pratiquement, hein, généralement les jeux sont pratiquement tous bons. Alors il y a des bouses, hein, on va en parler aussi, mais il y a de très bons jeux.
Oui.
Comme par exemple, je prends au hasard, tiens, Toy Commander. Alors Toy Commander, on va en parler parce que c'est quand même un jeu édité par un studio français qui s'appelle No Cliché, qui a fermé d'ailleurs. Toy Commander, comment expliquer ? Une simulation de petite voiture. Je ne sais pas comment dire.
Une simulation de gamins qui jouent avec des voitures, des avions et des hélicos.
Voilà. C'est exactement ça.
C'est merveilleux. C'est vrai que ça renvoie direct à l'enfance. On se retrouve avec un petit avion en jouet, à casser du pick-up en jouet, autour d'un banania dans une cuisine. C'est génial.
Voilà,
oui, on se tire dessus avec des crayons ou avec des pétards, on se largue des gommes à la tronche. C'est...
Oui.
C'est un jeu qui est très très amusant multijoueur, tout en étant assez exigeant en solo. Il y a des missions qui sont assez difficiles.
Ah, moi je l'ai fini, moi. Je l'ai fini même très facilement. Mais je me souviens d'une mission, c'est la mission type, c'est des missions du style... vous avez des sucres, vous avez un bol de chocolat au lait, vous prenez votre petit élytroyeur et puis vous mettez les sucres dans le chocolat au lait. C'est tout simple. Oui.
À dire comme ça, c'est complètement débile, mais c'est...
Sachant
c'est
que...
Marrant, c'est très marrant à faire, quoi. C'est pas le même esprit. Quoi.
Voilà, surtout que tout le jeu est à l'échelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une cuisine, mais la cuisine est géante. Il y a un chat, bon, tout le monde a tiré sur le chat. Il y avait un fameux chat qui dormait, on lui tire dessus, il bouge, il fait 10 fois notre taille. On comprend pas, mais il bouge, il miaule. Bon, c'est très drôle, c'est très, très immersif.
L'interactivité va très très loin, parce qu'il y a des tas de boutons qu'on peut actionner. On peut allumer, éteindre à peu près toutes les lumières, et des tas d'autres choses, des plaques chauffantes, on peut les allumer, les éteindre. Enfin, c'est vraiment varié de ce côté-là, qu'on peut vraiment s'amuser à faire... Autant à jouer sérieusement qu'à faire des conneries.
Voilà, c'est ça.
Aussi, en fait, au niveau des jeux incontournables aussi, bon, vu que je suis un fan de jeux de voiture, on va parler de MSR, de 355 Challenge. Mm-hmm. Et, même ces jeux-là étaient une réussite. Par exemple, on voit MSR, je suis encore en train d'y jouer de nos jours, et la durée de vie est exceptionnelle. Sinon, si on tape plus sur les graphismes, on peut regarder le 355.
Alors pour la petite anecdote, ceux qui n'ont pas trop connu la période Dreamcast, Project Gotham Racing, la série qui est actuellement sur les next gen et sur Xbox, c'est que sur Xbox, il n'y en a pas eu encore sur next gen.
C'est
bon.
Que sur Xbox 360.
Voilà.
Sur 360, il y a le 3 et le 4.
Voilà. Oui. Et, toute cette série là, c'est la suite de Metropolis Street Racer, tout bêtement.
La suite non avouée, mais quand même assez montrée, on va dire.
Ah,
Kudo et compagnie.
Voilà. MSR qui était le premier jeu où il y avait des pubs aussi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on passait un tour, il y avait une petite pub pour
Swatch.
Voilà, Swatch. C'est les jeux sponsorisés, voilà. Et donc tu voulais nous parler d'un autre jeu, Pop, de voiture?
Il y a F355 Challenge qui est considéré un peu comme l'une des références de jeux de voiture à des 128 bits parce que niveau graphique et immersion, il poussait vraiment très loin. Vue intérieure vraiment très bien jouable et c'était vraiment le bonheur quand on avait le volant. Et on ne pouvait avoir qu'un modèle de voiture, c'était un jeu de course, mais le fait qu'on puisse avoir qu'un modèle de voiture laissait beaucoup de puissance à la console. Donc ça lui demandait beaucoup moins de... Enfin bref, quoi. Il y avait plus de place sur le disque et les environnements et tout le reste, c'était vraiment bluffant de réalisme.
Il y avait aussi Sega Rally 2.
Oui.
Très très bon jeu. Daytona USA aussi, qui était ressorti donc sur Dreamcast.
Sega GT, ouais. Attention, Sega GT. Ouais. Parce que,
qui est le Gran Turismo de la Dreamcast, en fait.
Ouais, avec le graphisme.
Ouais, c'était vraiment... Vas-y, Fredo.
C'était le jeu qui devait contrecarrer l'effet Gran Turismo de la PlayStation et de la future PlayStation 2.
La question, c'est est-ce que ça a fonctionné?
Non.
Non.
Je sais juste que sur les Gran Turismo, je me faisais assez chier. Sur Sega GT 2002, j'ai pris mon pied. Bon, c'est pas sur Dreamcast, c'est sur Xbox, mais bon, voilà, c'était histoire de préciser par rapport à la série. Quoi.
D'accord, moi je me souviens d'un jeu de bagnole aussi, enfin de deux jeux de... Enfin, un jeu de bagnole et un jeu de course, on va dire. Un jeu de bagnole qui s'appelait Speed Devil, qui était très 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 fun. Et un jeu de course, qui est pas une exclusivité Dreamcast, qui était sorti sur PC quelques années avant. Mais c'est une simulation, alors je vais rester dans le domaine, hein, comme Toy Commander, mais là, une simulation de voitures radio commandées qui s'appelait Revolt. C'est un Mario Kart-like avec des voitures téléguidées. C'était génial et c'était magnifique pour l'époque.
Sinon, on peut aussi mentionner des simulations de Formule 1 comme Monaco Grand Prix ou F1 Championship. Ils sont aussi de très bons jeux, ils tiennent très bien la route.
Ouais. Alors, il y a eu aussi d'autres jeux. Il n'y avait pas que des jeux de course, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu Soul Calibur, le tout premier.
Dans les jeux de baston, il y a la dose.
Le plus beau jeu de la Dreamcast, je pense, non?
Non, c'est Dead or Alive 2, je crois que ça a déjà été dit.
Soul Calibur, c'est vrai qu'il est plus beau sur Dreamcast qu'en arcade, ce qui est déjà quand même assez fort. Mais tout de même, c'est vrai qu'il a beau être très beau, il est quand même... il sous-exploite énormément la console. Il n'y a qu'à voir les décors, faut avouer que les personnages sont très beaux, mais les décors sont malgré tout assez pauvres. C'est quand même dommage, ça.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage.
Mais attendez, par exemple, en fait, on dit qu'ils exploitaient la console, mais la console est sortie en 98-99. Mm-hmm. Enfin, fin 99 pour l'Occident, entre guillemets. Et le jeu est sorti en 2000-2001. Et quand on sait que la console avait à peine 1 ou 2 ans, pour quand même une console avec 2 ans d'exploitation, c'était quand même énorme comme résultat. On voit que sur GameCube et PS2, sur Calibur 1, faisait à peu près le même résultat. Donc voilà.
Alors voilà. Et puis sur Dreamcast, il y a eu quand même Dead or Alive 2, qui était un très beau jeu. Mais à sa sortie, la vraie claque graphique, c'était quand même Sonic Adventure. Pour l'époque, Sonic Adventure, c'était waouh. On va parler un petit peu des Sonic, des différents Sonic qui sont sortis sur Dreamcast, parce que sur Saturn, il n'y en a pas eu beaucoup, mais...
Pas sur Dreamcast non plus.
Il y en a eu trois,
mais c'est déjà beaucoup. Comparé à ceux sur Saturn.
Il y en a eu trois aussi sur Saturn.
Mais je veux parler de vrais Sonic, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu Sonic Jam, qui était une compilation. Il y a eu Sonic 3D, qui était un portage de ce qu'il y avait eu sur Mega Drive, ou le contraire, mais bon... C'était quelque chose qui était sorti déjà sur Mega Drive. Et il y a, en fait, en exclusif, il n'y a eu que Sonic R, on peut dire.
C'est ça.
Voilà. Là, il y a eu vraiment 3 jeux originaux sur Dreamcast. Donc, il y a Sonic Adventure 1, donc, qui est très bon. Je crois qu'il y a personne peut nier. Il est ressorti sur GameCube après, sur. Je crois qu'il est que. Il était moins bon, oui, parce que plus buggé, mais bon. Il y a eu Sonic Adventure 2 qui est sorti pour les 10 ans de Sonic. Avec un fameux coffret collector,
génial, ce jeu.
Le Birthday Pack, on avait le droit à une petite pièce et un petit CD avec beaucoup de musique, il me semble.
C'est ça.
Et il y a eu Alors, est-ce qu'on peut parler de bouse ou pas, mais il y a eu Sonic Shuffle.
Sonic, oh, le Mario Party de Sega.
Voilà. Alors, Xelan va nous parler un petit peu de Sonic Shuffle.
Ah, moi je connais pas.
Tu connais pas?
Ouais, moi je peux vous en parler par exemple.
Alors, on va parler un petit peu de Sonic Shuffle parce que le Mario Party like raté, on peut dire.
C'est ça. Enfin, c'est un jeu qui est quand même assez fun, on va dire, mais qui pêche par ses temps de chargement assez longs et qui sont qui nuisent beaucoup à l'ambiance en fait. La partie plateau est pas très, c'est pas très folichon quand même.
Le jeu était en cel shading.
En cel shading, oui.
Il reprenait les modèles de Sonic Adventure d'ailleurs pour ce qui est des graphismes.
Voilà, mais mis en cel shading.
Ouais. Et alors, ce qu'il faut dire sur ce jeu aussi, c'est que pour chaque joueur qui voulait jouer, en fait, il fallait une carte mémoire. Il fallait un VM par jeu parce que chaque joueur avait sur l'écran de sa manette en fait les cartes qu'il possédait et qu'il pouvait choisir parce que il fallait pas que tout le monde puisse les voir à l'écran de la
télé. Alors voilà, on en a pas parlé mais il faut parler quand même de la grande invention de la Dreamcast qui est le VMU.
La carte mémoire ultime même de nos jours.
Voilà, alors qui
la
peut
carte
nous parler
avec l'écran.
Voilà.
Ben, c'était une espèce de mini console à écran. C'est quoi un écran?
C'est un écran à cristaux liquides.
Voilà. Et qui servait de carte mémoire, mais aussi de petite console pour des petits jeux qu'on pouvait installer dessus via des jeux comme Sonic Adventure. On pouvait installer Chao Adventure pour élever cette Chao dessus. C'est des petites bestioles. On leur apprend des skills. Ça peut aussi servir à donner des informations dans différents jeux, par exemple Resident Evil, on peut lire sur son VMU son état de santé, les munitions qui nous restent, c'est sympa.
Moi je voudrais parler du gros problème qu'avait le Visual Memory, c'est les piles. Voilà, les piles.
Et la mienne qui vient de me lâcher, c'est mort.
Donc voilà, les piles c'était pas trop ça. Hein.
Bah en fait, à utiliser deux piles boutons de 3 volts qui sont. C'était déjà extrêmement vorace, ça les vidait très rapidement. Et
il fallait pas le laisser allumer.
Voilà, donc ça c'était mortel, hein, ça tenait pas 2 heures.
Parce qu'il me semble que quand par exemple on avait le Visual Memory dans la manette, qu'on éteignait la console, le Visual Memory restait allumé.
Mais c'est vrai aussi.
Voilà.
Et pour couronner le tout, les piles sont méga rares. Et
voilà.
On les trouve pas dans le commerce, il faut les acheter sur internet. Voilà, donc en fait, c'était. Bon, ça partait d'une bonne idée, mais c'était.
Voilà, c'est ça.
C'était mal réalisé, c'est ce qu'on peut aussi reprocher à la Game Gear ou à la Nomad, qui ont aussi des consommations hallucinantes.
Mm-hmm. Et Dieu inventa la batterie.
Voilà. C'est ça, c'est que ça aurait mis.
La batterie rechargeable.
Ouais.
Ce qu'on peut aussi dire sur le Visual Memory, c'est qu'il permettait une connectivité entre certaines bornes d'arcade et certains jeux. Surtout pour des jeux japonais, on n'a pas connu ça en Europe. Mais par exemple, pour Marvel vs Capcom 2, la version japonaise du jeu comportait 3 types de points pour acheter les personnages. Et il y avait des points qu'on pouvait gagner que si on branchait sur son VM sur une borne d'arcade. Et on raflait des points comme ça. Sinon, les autres points, c'était en jouant online ou en jouant solo.
Exactement.
C'est génial, ça.
Et en Europe, ils ont abandonné ça pour un seul type de points. Et en fait, c'est mieux parce que sinon, on n'aurait jamais pu avoir tous les personnages, quoi.
Ok.
Et ce qui est... Ça aurait été dommage parce que il y en a quand même une cinquantaine, quoi, quasiment. Donc, sinon, je crois qu'aussi pour...
Oui.
Pour Sega Rally, je crois qu'on peut sauvegarder ces réglages qu'on a fait sur Dreamcast pour les mettre sur la borne d'arcade.
D'accord.
Ou pour Virtual On, on peut utiliser des robots qu'on a customisés pour les utiliser sur la borne d'arcade. Ça n'a pas été beaucoup utilisé, mais ça mérite d'être mentionné.
Ok. On peut parler aussi des quelques bouses qu'il y a eu sur Dreamcast. Il y en a eu quelques-unes qui étaient assez mémorables. Moi, je me souviens de Soul Fighters. Soul Fighters qui était un beat'em all extrêmement moche, extrêmement injouable, ce qui est le comble pour un beat'em all quand même, où il y avait genre trois coups différents. C'était bon, encore pour un Street of Rage sur Mega Drive, ça se comprend, mais sur sur un jeu 128 bits, ouais, j'ai pas très bien compris. Donc je crois que les développeurs étaient en grève ce jour-là, mais voilà. Et et autre Fighting Force 2. Et...
Bah, moi, comme vous, je pourrais noter comment il s'appelle, Army Men Surges Heroes, qui est en fait un jeu de guerre avec des soldats en plastique. Donc en fait, moi j'espérais retrouver l'esprit de Toy Commander, comme on en parlait tout à l'heure, et je me suis retrouvé avec une bouse infâme qui est à peine du niveau de la PlayStation 1. Donc voilà.
Ok, pareil. On a oublié de parler de pas mal de jeux. Comme Quake 3 Arena, qui est sorti sur Dreamcast, et d'autres jeux qui devaient sortir mais qui sont jamais sortis. Alors dans les jeux Dreamcast adaptés de PC, il y a eu Quake 3, il y a eu Soldier of Fortune, il y a eu Unreal Tournament, donc que des très bons jeux. Devait y avoir Half-Life, qui n'est jamais sorti.
Il est sorti en version
PS2.
On peut le trouver sur Internet, Half-Life Dreamcast.
Half-Life, ouais, circule sur Internet. Hein.
D'accord.
Et il y a même des gugus qui se sont amusés à faire Counter-Strike 1.6 sur Dreamcast. Bon, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais ça me paraît un peu ambitieux quand même.
D'accord. Il y a eu des jeux aussi qui sont légendaires, comme Ikaluga.
Ah oui.
Ils sont inconnus, comme Ikaluga.
Non.
Comment, dis pas inconnu, ça, c'est pas possible d'entendre ça, tout, surtout rapport à la Dreamcast.
Ah oui.
La Dreamcast, c'est quand même une console qui, pour ce qui est des shmups, est vraiment top, quoi. Vraiment un classement top. Elle a nombre de shmups d'une qualité hallucinante. Comme par exemple, justement, Ikaruga, qui est reconnu comme étant un des meilleurs. Bon, même si je suis pas fan, voilà. Elle en a des tonnes d'autres, peut-être un petit peu moins connues, ça je peux être d'accord, comme Sivarier 2.
Under Defeat.
Under Defeat, très bon. Les jeux grèves, justement, comme Under Defeat, Border Down. Elle a vraiment des shoots and up de
qualité. Et puis, il y a eu le monument.
Ma Dreamcast, elle est trompée, donc comme ça. Comme ça, le problème est réglé, quoi.
Et puis, il y a eu le jeu artistique. C'est un des premiers jeux. Moi, c'est un des premiers jeux qui a donné un sens artistique au jeu vidéo en lui-même, un sens créatif, c'est Rez.
Oh les beaux mots.
Ah non, t'as pas joué à Rez. Tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre.
Non mais j'ai joué qu'à Sonic Adventure moi sur Dreamcast.
Ah bah oui, non mais il faut que tu testes Rez. C'est vraiment un jeu à côté duquel on peut pas passer.
C'est une expérience.
Pas tous à la fois.
Il est pas si bien que ça, il est au-delà même. Cet après-midi encore, je m'en faisais une partie d'ailleurs, tiens. Histoire de...
Fredo, tu voulais dire quelque chose sur Rez.
Rez, c'est une expérience de jeu qui combine en fait un peu un shoot'em up avec un jeu musical. En fait, on se retrouve dans un système informatique qui est modélisé en fil de fer un peu, il y a pas de texture, il y a que des fils de fer quasiment, et avec une musique un peu trans techno derrière qui évolue en fonction des tirs qu'on fait, des qualités qu'on a à arriver à faire le jeu.
Mm-hmm.
Et avec la manette en plus qui vibre sur la musique. Les musiques sont vraiment très bonnes, l'expérience de jeu est assez hallucinante. Le créateur du jeu, je sais plus son nom, il a voulu recréer ce qu'on appelle la synesthésie. Merci.
Zubushi.
Oui, j'ai pas retenu ce nom-là, désolé. Il a voulu recréer ce qu'on appelle la synesthésie, qui est un phénomène en fait qui veut mélanger les sens entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent dans les vibrations des mains. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et la preuve de l'exception du jeu, c'est qu'il a quand même été retransmis sur PlayStation 2 avec un vibreur assez à la forme assez particulière, hein, et à l'utilisation un peu plus douteuse. Et il a été aussi ressorti récemment sur Xbox 360 en version haute définition.
Qui on va dire vraiment... la version ultime.
Oui, moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer un petit peu. C'est vrai que c'est largement mieux.
Moi, je voudrais noter aussi que pour ceux qui ne connaissent pas Rez, mais qui ont joué au jeu Shadow the Hedgehog, alors je passe d'un truc à un autre, il y a un certain niveau de Shadow the Hedgehog qui est une sorte de petit hommage à Rez, parce qu'il y a une musique qui est très, j'aurais envie de dire, entre guillemets, Rezienne. Alors, je ne me souviens plus du niveau, mais c'est le niveau qui se passe dans le système informatique du Dr Eggman. Enfin.
Ah oui, le niveau que je zappe parce qu'il fait mal aux yeux. Okay.
Voilà, et bah, ce niveau-là est un petit hommage non avoué, je pense, à Rez, parce que c'est très très proche au niveau graphique de ce qu'était Rez.
Alors, ce qu'en fait, c'est que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on a une conversation derrière et qu'il y en a qui sont en train de dire de la merde sur Shadow qui est très.
Bon,
parce que c'est une bouse alors que c'était un bon jeu.
Non.
Non, je confirme, c'est une bouse.
C'est pas le débat.
Un jeu qui est bon.
Ouais,
bien Shadow.
Eh ben, on en parlera dans un podcast consacré à Shadow the Hedgehog qui ne sera sûrement jamais fait. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de chances qu'on fasse un podcast Mother qu'un podcast Shadow the Hedgehog. Voilà, un petit clin d'œil. Ceux qui sont concernés. Bon.
Ça m'a cassé moi, j'apparais.
Voilà. Donc après c'est terrible, on va passer carrément. Donc je crois qu'on a cité les plus grands jeux de la console, on n'a rien oublié.
On a parlé Jet Set Radio.
Ah oui, on n'a pas parlé de Jet Set Radio ni de Shenmue.
Ah oui,
on va te lapider. C'est pas bien ça.
J'agonise.
Alors bon. Xelan est un petit peu hors sujet parce qu'il connaît pas du tout Shenmue ni Jet Set Radio. Alors on va commencer par Shenmue et je crois que là c'est Pop qui va nous en parler.
Alors Shenmue, en fait c'est facile, je peux en parler un peu comme des yeux de gamin vu que je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Parce que j'ai acheté ma Dreamcast il y a un an et demi et j'ai eu le jeu il y a 6 mois.
Et j'ai une relation sexuelle avec mon Pikachu.
Xelan. Et donc le jeu... Même si c'est une sortie bite, elle m'a vraiment bien claqué. Le graphisme est super bien et surtout c'est un jeu avec un vrai scénario et un truc poétique. C'est un jeu, c'est le must. Je sais pas comment décrire Shenmue, mais c'était vraiment un jeu magnifique.
D'accord.
Shenmue, si vous voulez, parce que je crois pas.
Alors, Jet Set Radio, on a oublié de préciser un peu le concept parce que Pop en a très bien parlé, mais il a oublié de dire qu'est-ce que c'était. Alors. Jet Set Radio est un des premiers jeux entièrement en cel shading.
C'est le premier jeu, c'est l'inventeur du cel shading.
Voilà. Donc le cel shading, c'est ces fameux graphismes qui font un peu BD, dessin animé, enfin qui ont été utilisés dans Zelda, Wind Waker, voilà, dans Dragon Ball Z, Tenkaichi, etc. C'est des graphismes un peu particuliers et le but du jeu, on incarne un roller boy, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin un mec qui fait du roller, un branleur, un jeune délinquant de Tokyo.
Ça c'est des délinquants. Hein.
Alors ça se passe où? Ça se passe où dans
à Tokyo. Tokyo.
Oui mais dans Tokyo. Ça se passe où? C'est à Shibuya. Tokyo c'est
ça, ben justement dans plein de quartiers, on passe de quartier en quartier.
Oui.
Donc,
c'est ça.
D'accord.
On passe par Shibuya, on passe par des tonnes d'autres.
Ok. Et donc le but c'est de taguer les murs. Alors après on va dire que GTA est un jeu qui pousse les jeunes à faire des conneries, mais c'est quand même le jeu. Le but était de taguer sur les tags des autres clans. Et bon c'était assez fun, on pouvait faire ses propres tags.
La bande son était assez énorme aussi.
La bande son était géniale.
Bah oui, ça c'est.
Et donc voilà.
Nakamura est vraiment un bon compositeur, je trouve. C'est celui qui a fait l'OST de sa suite et de Sonic Rush pour info.
Ah, et bah ce mec-là, il faudrait lui dire qu'il arrête de faire des musiques pour le online parce que de Sonic Rush parce que c'est franchement.
Ouais, ya.
J'ai jamais entendu une musique aussi comment dire, chiante.
J'avoue.
C'est la catastrophique.
C'est un petit clin d'œil parce que les parties entre moi et Xelan à Sonic Rush, on a arrêté de jouer justement à cause de cette musique.
Ah, moi, je fais le son parce que on commence à jouer pendant 10 minutes parce que lui, il avait un modem foireux.
Aïe 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 pendant 10 minutes.
Ceci dit, pour rester dans le sujet, c'est pas la pire que la musique des Mystic Ruins de Sonic Adventure.
C'est vrai, c'est un peu le même genre.
Oui, voilà. Mais... c'est... enfin bon. On va passer à Shenmue. Alors, Shenmue, alors là, il y a de la discussion là, autour de Shenmue.
Mais j'ai fait un hors-sujet tout à l'heure. Donc,
Voilà, alors Shenmue. Shenmue, c'est quoi? C'est une simulation une simulation de jeune déprimé par la mort de son père qui veut se venger. On va dire ça.
Et japonais avec le code de l'honneur et qui sait bien se battre aussi.
Voilà. C'est le seul homme à garder son pansement pendant 2 ans.
Il y a plein d'adieux aussi, mais c'est pas grave.
Voilà. Alors vas-y Fredo, explique-nous ce qu'est Shenmue.
Bah, Shenmue, à l'origine, c'est parti d'un projet de faire un Virtua Fighter en jeu d'aventure.
Mm-hmm.
Et à l'origine, c'était sur Saturn qui était prévu. D'ailleurs, dans le jeu Shenmue, on a une vidéo de ce que ça aurait donné sur Saturn et on voit vraiment que la Saturn en avait dans le ventre, hein, s'il s'était donné un peu la peine. Mais heureusement quand même qu'il est sorti sur Dreamcast, parce que c'était largement mieux. Donc l'histoire un peu, c'est l'histoire de Ryo Hazuki, dont son père a été assassiné par le mystérieux Landy, dont on connaît pas grand-chose.
À part qu'il s'habille en vert et qu'il a une tête de méchant.
Et qu'il est méchant, hein, il a pas que la tête, il est vraiment très méchant. Et il va vouloir venger la mort de son père, donc et pour ça il va faire tout un voyage, il va chercher des méchants en Chine, il va chercher toutes les infos qu'il faut. Et voilà, donc c'est le jeu qui a inventé le principe du QTE, Quick Time Event.
Ah non, c'est pas le jeu qui l'a inventé, c'est Dragon's Lair. Attention.
Autant pour moi, on va dire que c'est le jeu qui l'a popularisé alors.
Voilà, merci.
Voilà, autant pour moi.
Alors le QTE, bon, je vais expliquer vite fait ce que c'est. Il y a une touche qui apparaît, ça fait tic 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 tic. Il faut vite appuyer sur la touche, sauf quand on est chez le barbier. Sauf quand on est chez le barbier où il faut garder son sang-froid et ne pas appuyer. Et ça, j'ai mis des années et des années à comprendre qu'il fallait pas appuyer. Il y a une fameuse scène, donc pendant tout le jeu, on a des QTE où il faut appuyer très vite, très vite, très vite. Et il y a une scène chez le barbier où le barbier nous met un coup de pression, il nous met une lame sous la gorge et il y a un QTE. Et on appuie tous comme des cons, et en fait, non, il nous dit qu'il faut garder notre sang-froid, et en fait, il ne faut pas appuyer. Et moi, j'appuie.
Fait quoi?
Si on a appuyé, ben, on recommence, c'est game over.
Ben, voilà.
On est mort.
Voilà. Game over.
Tu reviens demain, en fait.
Voilà, il faut revenir le lendemain, exactement. Donc, je sais que j'ai galéré longtemps sur ce moment du jeu parce que j'appuyais le plus vite possible, et pourtant, à chaque fois, je me dis, mais putain, il est à peine apparu que j'appuie, j'avais calculé trop le timing et tout, et non. Et le jeu était tout en anglais. Enfin, sous-titré
alors,
anglais.
Le premier, le Shenmue 1, il a eu droit à une version parlée en anglais, avec les sous-titres anglais aussi. Shenmue 2, la version qui est sortie en Europe, était en japonais, ce qui rendait quand même largement mieux, bah, avec l'esprit asiatique de la saga. Et avec des sous-titres anglais et le fameux carnet de notes en français pour nous aider quand même.
Voilà, ils sont pas foulés quoi, ils ont juste traduit le carnet de notes, c'est ça que je comprends pas.
Oui, si, il va justement, ils l'ont traduit à l'arrache pour arriver à le commercialiser en Europe, parce que aux États-Unis, il est même pas sorti le Shenmue 2, parce que Microsoft avait racheté l'exclusivité pour sa Xbox.
Ah merde.
Et voilà.
Et donc, Shenmue 2 s'arrête sur un cliffhanger de malade, un truc. Le gros truc bien space, c'est-à-dire que tout le jeu, on a bien les pieds sur terre, c'est une histoire de gang, voilà. Et puis là, à la fin, on se balade dans les campagnes reculées du Japon.
À fond de la Chine.
Ah oui, c'est en Chine, le 2. Et oui, c'est vrai que la fameuse scène où il arrive sur le bateau, où il regarde sa petite photo et tout. Et donc, pour pas trop spoiler, il arrive dans les campagnes profonde de Chine, il se balade avec une fille un petit peu étrange, et ça se finit comme ça, tout bêtement, et Shenmue 3 n'est pas encore sorti et ne sortira probablement jamais.
D'ailleurs, la fille, c'est celle qui raconte l'histoire dans le lancement de Shenmue 1.
Voilà, exactement.
Il a un gros potentiel et qu'il pourra faire ce qu'il veut avec ça.
Un truc assez original que je voudrais préciser, c'est que, par exemple, on va jouer à Shenmue 2, mais on n'a pas joué à Shenmue 1. Quand on va débarquer du bateau au départ de l'aventure, on aura en objet qu'une photo qu'on a prise dans Shenmue 1, qui est relative à l'histoire de Shenmue 1. Une photo et quelques objets. Alors que si on a déjà joué à Shenmue 1 et qu'on a une sauvegarde dans son VMU de Shenmue 1, eh ben on a tous ces objets de Shenmue 1 au commencement de Shenmue 2. Et ça, c'est génial. Surtout toutes ces petites figurines à collectionner.
Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est formidable dans Shenmue, c'est qu'ils ont réussi à faire des clins d'œil à énormément de séries de Sega.
Et de AMD.
Alex Kidd, Knights, Sonic, Virtua Fighters, Hang On.
Vraiment. Alors, oui. Il faut préciser que dans ces jeux, on peut jouer à Space Harrier, on peut jouer à Afterburner, on peut jouer à Hang On, à Outrun, tous les jeux d'arcade de Yu Suzuki.
Bah, en fait, on peut se rendre dans une salle d'arcade où on peut trouver les machines.
Voilà.
Pour une petite partie d'émulation ou dans Shenmue 1, on peut carrément trouver des jeux qu'on peut faire jouer sur la Saturn du héros dans son salon, même si l'histoire se passe en 87 et que la Saturn n'est pas censée exister à cette époque-là.
Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Shenmue. Donc il y en aurait encore des 1000 et des 100 à dire, mais on vous réserve ça peut-être pour un podcast sur la série un peu plus tard. Alors.
Jouer à Shenmue, c'est tout ce qu'il faut savoir.
Voilà, jouer à Shenmue. Donc voilà, alors moi j'ai envie de poser une question. Tant de bons jeux sur une console, très peu de bouse, une console plus puissante que toutes les autres, pourquoi cette mort prématurée?
Bah, il y a pas mal de...
Alors pas tous à la fois. Vas-y, quelqu'un.
Pourquoi cette mort prématurée? Oula, déjà la concurrence de la PS2 fait beaucoup. Le fait qu'il y ait son lecteur DVD... Le lecteur DVD qui a fait que la PS2 s'est beaucoup vendue et qui a
Je veux préciser un truc.
Oui, Xen.
En fait, avant même que la Dreamcast sorte, beaucoup de personnes n'ont pas pris la Dreamcast et attendaient la PS2. En fait, le succès de la PS1 a été tellement puissant que les gens ont attendu la PS2.
Et la Saturn était décevante aussi, donc ça avait donné une mauvaise réputation. Également.
Ok.
Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la Dreamcast, malgré le format GD-ROM qu'ils avaient utilisé, qu'on peut pas trouver dans le commerce, elle était facilement piratable avec des CD. Et donc,
il n'y avait même pas besoin de puces.
Voilà.
À part pour celles qui sont sorties après 2000.
Voilà.
C'est les seules. Mais bon, ça servait à rien.
Voilà, donc la console était très facilement piratable, du coup ils vendaient pas de jeux, ils les gravaient.
Mais elle est jamais vraiment morte, la Dreamcast, en fin de compte.
Non, ça c'est...
D'un côté, elle est apparemment morte, vu qu'il y a encore des gens qui font des jeux sur Dreamcast.
Alors oui.
Il y a des applications...
On va parler un petit peu de la seconde vie de la Dreamcast, qui est un peu plus underground, un peu moins grand public, mais...
Depuis les années 2000, ouais.
Ben, si, il y a quand même une partie grand public, parce que... Il y a beaucoup de portages de jeux Naomi, justement, enfin qui ont été développés pour Naomi, qui ont été portés sur Dreamcast parce que la facilité de la compatibilité. Des jeux comme, surtout beaucoup de shoot'em up comme Ikaruga ou Under Defeat, par exemple, qui sont sortis assez récemment. Je crois Under Defeat est sorti en 2006, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment des très bons jeux, mais qui sont tout à fait officiels. Par contre, ils vont coûter une fortune. Je crois le pack collector coûte une centaine d'euros. C'est... Bon. Ça coûte cher, mais ça sort encore sur Dreamcast.
Mm-hmm.
Par contre, effectivement, oui, il y a pas mal de développement amateur qui s'est fait sur Dreamcast. Pas mal d'émulateurs, qu'on peut dire. Master System, Mega Drive, NES, Game Boy. Ça, c'est dû à l'OS en fait de la Dreamcast qui était compatible avec Windows, qui facilitait énormément le développement amateur.
Alors tu peux nous citer quelques jeux qui sont sortis
Des jeux comme ça, non, mais plutôt oui des émulateurs, des lecteurs MP3, lecteurs de DivX, ce truc comme ça. Ça a été développé un peu underground. Pendant la vie de la Dreamcast ou après aussi, ça dépend.
Mm-hmm.
On peut aussi mentionner l'action de... Comment il s'appelle ? Blimcast, qui sont exténués à faire des CD qui permettaient de lire des jeux PlayStation sur la Dreamcast. Entre autres, je crois qu'il n'y en a que 3 qui ont été commercialisés pour Metal Gear Solid, Grand Turismo et Tekken. Bon, okay. Forcément, Sony a pas du tout aimé, ils leur ont collé un procès, ils les ont démontés.
D'ailleurs, en fait, il y a une chose que que les Dreamcasters, entre guillemets, regardent un peu, parce que Blim, c'est la maison même qui avait créé Blimcast, avait prévu de sortir 3 CD, donc 3 Blimcast, qui devaient chacun émuler 200 jeux de PS1 avec une compatibilité parfaite avec les VMU et tout. Et quand Sony a appris ça, bah, pour le coup, ils étaient vraiment pas contents.
Oui, ça se comprend, Romain.
Ok.
Mais il faut quand même dire que les jeux que passait Blimcast sur la Dreamcast étaient meilleurs, ils avaient des textures plus fines que sur PlayStation.
À cause de la résolution, entre autres.
Entre autres, oui, mais voilà, quoi, la différence était notable. Bon, ça n'empêchait pas qu'il fallait acheter le jeu PlayStation, mais bon.
Ok. Donc voilà, la Dreamcast est morte en 2001, quand le système Naomi 2 a été lancé. Et ils ont arrêté la production de Dreamcast et tous les services après-vente ont fermé. Voilà, je viens de casser l'ambiance, je vous ai rappelé à tous de mauvais souvenirs. Voilà, alors bon, je propose 10 secondes de silence.
Exact.
Non, peut-être pas, mais c'est vrai que c'était une... Ça, dans le cœur des joueurs, ça a été un gros deuil quand même, parce que c'était la console des gamers, quoi.
Voilà, c'est la disparition de l'arcade sur console. Enfin, pas disparition complète, puisqu'on en retrouve quand même un certain nombre sur Xbox 360. Mais quand même, ça fait mal de voir l'arcade quitter définitivement quasiment l'Europe, quoi, parce que maintenant, on n'en trouve quasiment plus.
On en trouve un petit peu sur PS2, mais c'est des portages relativement médiocres qu'on a pu avoir en Occident, et en Europe tout particulièrement. Heureusement, ça a un petit peu continué sur PS2 au Japon, mais voilà. Mais pour ce qui est de l'Europe, c'est vrai que c'est un peu mort. Ouais.
Ok. Voilà. Peu de temps après la mort de la Dreamcast, il y a un des dirigeants de Sega, d'ailleurs, je crois que c'était le directeur général, qui est décédé. Donc ça les a pas aidés. Donc voilà. Et donc tout ça, c'était juste après Sega a annoncé qu'il ne ferait plus de hardware.
Mais par contre, en fait, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que, en fait, la Sega Dreamcast, elle a été, en gros, commercialisée pendant 2 ans, quoi, on va dire, entre 99 et 2000 ans en Europe.
Voilà.
Mais, en fait, quand on voit les chiffres de vente, en 2 ans, quoi, c'est quand même astronomique, quoi, c'est 11 millions.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Vendu. Mais c'est là que je comprends pas Sega, quoi. Au lieu d'abandonner aussi facilement, ils auraient peut-être pu essayer un peu plus avec de meilleures campagnes marketing, peut-être. Bah, mais
attends,
ils étaient vraiment trop à bout de souffle.
Ils s'étaient plantés sur la 32X, le Mega CD, la Saturn et maintenant la Dreamcast.
Donc ils voulaient plus prendre de risques, en fait.
Ils avaient essayé tellement de...
Ils en avaient déjà pris tellement.
70 millions de dollars.
En fait, qu'ils avaient plus les moyens financiers de continuer.
Ah ouais, d'accord. Tu vois la vache.
Ils étaient endettés à mort.
Voilà, Shenmue avait coûté 70 millions de dollars, c'était absolument record pour l'époque, et ça s'est pas vendu du tout. Donc voilà. Oui, il s'était complètement ruiné, quoi.
Voilà.
Ils avaient plus les moyens de se relancer dans le hardware.
Voilà. Donc ça c'était pour la Dreamcast. Donc j'ai envie de poser une autre question. À votre avis, à part les soucis financiers. Pourquoi cette décision d'arrêter le hardware ? À part les soucis financiers, peut-être peut-être est-ce une décision de prévention pour envisager quelque chose plus tard, ou c'est quelque chose de vraiment définitif et qu'ils avaient plus envie de le faire du tout ?
En fait, ben... je pense que c'était que les problèmes financiers étaient leur unique raison d'arrêter la vente et création de consoles.
D'accord.
Et pour l'instant, faire une nouvelle console Sega, c'est pas vraiment d'actualité vu que
absolument exclu même.
Ils essaient en fait de se positionner comme le meilleur éditeur.
Oui.
Ok.
Je crois qu'ils en sont pas trop loin. Je crois qu'ils sont dans le top 5. Hein.
Je crois qu'ils sont dans les 5 meilleurs éditeurs maintenant.
Ils sont quatrième.
Voilà, quatrième meilleur éditeur. Donc ils étaient assez contents. Ils s'en vantaient avec Mario et Sonic.
Ah oui.
Et donc bah, pour l'instant leur but voilà c'est le meilleur éditeur, donc pour l'instant la console c'est faut pas trop y penser, hein, faut pas avoir trop d'espoir.
Oui. Donc voilà, et à ce moment-là, à la surprise générale, Sega décide de sortir des jeux donc sur d'autres consoles, Et en premier, je crois que ça a été des Sonic. Et si je ne me trompe pas, ça a été Sonic Adventure 2 Battle qui est sorti sur GameCube.
Le premier, c'était Sonic Adventure 2 qui a été renommé Sonic Adventure 2 Battle sur la GameCube.
Voilà.
Mais aussi les Sonic Advance qui étaient vraiment franchement bien réussis. Sonic Advance.
Oui, en fait, Sonic Advance, c'est le premier jeu Sonic sur console autre que Sega.
Ok.
Mais ils sont vraiment réussis, quoi. Quand on voit le Sonic Advance 1 et Sonic Advance 2, ils ont vraiment réussi à mettre sur GBA des graphismes meilleurs que sur Mega Drive, par exemple.
Ouais.
Et les jeux sont vraiment géniaux. J'adore ces jeux.
Moi j'aime pas Sonic Advance 2, mais Sonic Advance le premier, je trouve qu'il est très ressemblant de Sonic 2 et Sonic 3, donc il est forcément, ce qui ressemble à Sonic 2, forcément il est bien.
Ouais.
Ouais, je suis assez
Et
d'accord.
c'est une règle, tu vois, c'est comme les règles de grammaire, bah ça marche pareil.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est. Donc après il y a eu Sonic Heroes qui est sorti sur toutes les consoles, donc sauf la Dreamcast bien sûr, mais sur Xbox, PS2 et sur GameCube. Voilà. Et donc là, ça a mis un terme définitif donc à toute rumeur de peut-être console surprise ou autre. Là, à partir de ce moment-là, on était sûr que Sega allait se lancer uniquement dans l'édition.
Voilà.
Et moi, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, est-ce que ça lui a réussi ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire non. Après, j'ai.
Non, non, non et non.
Voilà. Est-ce qu'on peut élever le débat un petit peu et dire pourquoi non?
Les jeux
plus les
perdent un peu
moyens
de leur
d'entente pour leur
identité.
jeu. Ils ont plus les moyens financiers qu'ils avaient pour faire leur jeu.
Voilà.
C'est pour ça que, par exemple, les Sonic qui sont sortis après Sonic Adventure 2 sont relativement moins bons.
Relativement des... Oui, bon, on va dire moins bon.
On va citer un certain Sonic Riders sur GameCube.
Non, 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 pitié,
alors
non, non,
là, je suis
et
pas
un
d'accord
certain
comme du
Sonic
tout.
Heroes.
Je suis
Alors,
pas du
moi
tout
j'ai bien
d'accord
aimé
pourquoi
Sonic
faire ça,
Riders,
voilà.
mais alors
Je
pour
trouve ça
Heroes,
bon jeu.
Sonic Heroes est une vraie merde, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est une
C'est
merde.
j'avoue.
On est d'accord.
Sonic Heroes, il lui manque juste un truc, il lui manque un gameplay, c'est tout.
Oui, c'est vrai. J'avoue, je l'ai pas trouvé moi-même.
Même
Là, il manque
Sonic,
un peu.
j'aurais tendance à dire, même Sonic Drift est plus jouable.
Il lui manque la chose qui fait les Sonic, quoi, le gameplay, mais c'est le truc des Sonic.
Voilà.
Et Sonic Riders aussi dans la série des Sonic horribles.
Très bon, je trouve, le Riders. Il a quand même de sacrés avantages.
Alors, c'est pas un des meilleurs Sonic, mais il a des bonnes idées et bon, c'est un jeu qui
Des
est
bonnes
plutôt
idées
bon.
mal exploitées.
Voilà.
Mais pourquoi
Très
Sonic?
difficilement jouable. En
Pourquoi
revanche, la
Sonic
version
sur
Wii,
Wii?
du jeu est super.
Pas tous à la fois, pas tous à la fois. Vas-y, Fred.
Battez-vous!
Fredo. Vas-y.
Pourquoi Sonic fait-il la course sur des skates? Enfin,
Mais
des
parce que
skates.
ça c'est les nouveaux mecs du marketing de chez Sega, ça, ou de la Sonic Team.
Ça n'a aucun sens.
C'est Sonic doit être cool à la mode. Sonic bientôt il va avoir des tatouages. Mais on regarde bientôt
Je le
il se
rebelle,
transforme en
voilà.
loup-garou.
Sonic le Jones.
Ouais.
Mais
Sonic, la confrérie des ténèbres.
Bientôt Sonic dansera la tectonique, ça va être génial.
Voilà.
Mais il a déjà la coupe, donc c'est pas loin. Moi je dis.
La
Non.
Tectonique.
Non mais ça a à peu près autant de sens que lui faire faire la course en kart avec Sonic Drift, quoi. C'est.
Oui.
Oui, ça sert à rien vu qu'il va plus vite que les cartes. Les...
Ben voilà, c'est ça.
c'est pas faux, mais bon. Pareil, il y a eu des autres grosses bouses, hein. Dernièrement, il y a eu Iron Man qui était un peu naze. Il y a eu Viking qui a eu un succès mitigé.
Honnêtement, je me demande comment ils ont réussi à se mettre en quatrième position des éditeurs mondiaux avec la qualité des jeux qui sortent.
Bah, il y a eu les Condemned qui
Mais
étaient.
je dis, c'est Mario et Sonic aussi qui les a beaucoup aidés.
Alors, Mario et Sonic, il y a ceux qui
C'est pas
sont ok et il y a ceux qui sont pas ok.
Non,
This is
mais
madness.
il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas, mais il faut le dire, le jeu a eu beaucoup de succès et c'est ce qui a aidé Sega
Voilà,
à
mais
monter
après,
la
c'est le fait de voir Mario en compagnie de Sonic quand bah, des gamers comme moi ont vécu toute leur enfance à faire la guéguerre entre Mario et
Ouais,
Sonic,
et bah
la
moi je trouve ça
Nintendo.
super sympa, tu vois.
Bah, moi je
Moi
trouve
je
ça, hein,
trouve.
je trouve que ça a cassé la magie du
En tant
truc.
que grand fan de Sonic et grand fan de Mario.
Bah, écoute, moi je trouve que ça a cassé toute la magie de cette rivalité.
Ouais, moi j'avais
Je suis
jamais vu
d'accord.
spécialement de rivalité. Mais bon, si tu veux vraiment la rivalité, tu vois, tu te prends Smash Bros. Brawl et tu te fais un combat
Non, non,
Mario versus
pitié,
Sonic.
non, non, pitié, 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 pas ça.
Ah,
Sonic
après,
contre
c'est comme Sonic dans Smash Bros.
Attends.
Non. Déjà, on l'attendait dans Smash Bros. Melee, bon, il est pas là. Après, il a été dans Smash Bros. Il y en a qui sont ok pour ça, il y en a qui sont pas ok. Moi, je dis, je suis pas trop ok parce que ça, enfin, pour moi, ça casse la magie de.
Normalement, c'est uniquement les personnages de Nintendo. Mais vu que Sonic traîne beaucoup sur les consoles de Nintendo maintenant, bah, ils ont décidé de l'inclure. Je veux dire, c'est pas
étonnant. Oui, mais maintenant, Sonic n'est plus une mascotte de Sega. Sonic, c'est un personnage lambda, comme pour aller de Crash Bandicoot, comme pour aller de Rayman.
Non, dis pas ça quand même. Enfin,
oui, Crash Bandicoot, il a jamais été intéressant, je trouve. Donc.
Moi, j'ai toujours bien aimé Crash Bandicoot, mais c'est pas le sujet. Mais.
Ce perso, ouais. Il est trop con.
Mais justement, c'est ça que j'aime en lui, c'est sa naïveté.
Il a une sale gosse, il a pas même Wario est plus beau que lui.
Donc voilà, ça c'était pour le multi-support. Bon, on est tous d'accord pour dire que pour l'instant ça leur a pas trop réussi. Comme je disais l'autre jour, je crois que c'est à Fredo que je disais ça. Je lui dis, depuis la Dreamcast, quand est-ce qu'on a eu l'occasion de dire d'un jeu Sega, waouh, c'est pas mal ça.
Sonic and the Secret Rings.
Condemned, ouais.
Non, même pas.
J'ai envie de dire non.
Sonic Rush Adventure, moi j'ai trouvé qu'il était pas mal ce jeu-là.
Alors oui, il y a eu.
Ah oui! À part le aïe.
Ou le ou dans Sonic Rush 1, right there, right on, right there, right on, right there.
Ta gueule!
C'est un peu ça. Donc voilà. Et donc. Xen va nous en parler, mais il y a une petite rumeur qui tourne depuis quelques temps sur le net. Tu vas nous parler de ça, Xelan, et tu vas nous expliquer tout ça.
En fait, ça n'a même pas une semaine comme rumeur. Mm-hmm. Récemment, une rumeur qui circule sur beaucoup de forums, comme quoi Sega en fait serait racheté par le géant Microsoft. Et alors, qu'est-ce que ça signifie pour les joueurs? Bah, ça signifie déjà plus aucun espoir de voir une Dreamcast 2.
Mm-hmm. Carrément.
Et le fait, bien sûr, que les jeux, tous les grands jeux de Sega ne sortiront uniquement sur Xbox 360.
Alors après, il y a les fans de Sonic.
Sonic et autres.
Oui, mais les fans de Sonic sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils auront pu acheter 500 consoles différentes, voilà, pour jouer à tous les Sonic.
Oui, parce que nous, pauvres fans de Sonic, nous sommes obligés de prendre plusieurs consoles pour pouvoir en profiter. Il faut prendre par exemple la 360 pour jouer au dernier à Sonic 2006. Mm-hmm. Il faut prendre la Wii pour Sonic et The Secret Rings. Donc,
Sonic 2006.
C'est complètement tordu.
Oui, bah, personnellement, la DS, tout ça.
Oui, voilà, c'est exactement ça.
La PSP pour Evolves, la DS pour les Sonic Rush, voilà, ça fait un peu beaucoup de consoles.
Et puis, il faut acheter une Wii pour jouer à Night, mais bon, encore, ça c'est pas grave, on peut s'en passer.
D'autant plus que c'est un petit peu une bouse, quoi, donc
faut s'en passer.
Donc, alors, forcément, il y a les points positifs et il y a les points négatifs d'être acheté par Microsoft.
Voilà.
Personnellement, je considère déjà la 360 un petit peu sur certains points comme une Dreamcast 2. Donc, d'un certain côté, ça me gêne pas.
Exactement, comme moi, je t'aime.
Oh, ces déclarations d'amour.
Aimez-moi. Oh, les déclarations.
Bon, on va vous laisser dans une petite salle sombre d'un côté avec un rideau. Vous faites ce que vous voulez. Hein.
Une personne qui amènera son Pikachu.
Non, mais là je suis gâté. Alors attends, il y a la relation avec Pikachu. Yes. Oh, c'est quoi la prochaine fois? Oh, la
vache. Voilà. Et alors on va finir sur un débat dont tous les fans de Sega et plus principalement les fans de Dreamcast s'arrachent ce débat, se font la guerre là-dessus. Est-ce qu'il y aura un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, une nouvelle console Sega?
Non. Bah si on se fait la rumeur, bah non.
Oui, parce que quand je serai milliardaire, je deviendrai patron de Sega, genre de Michael Frick.
Et comment tu comptes devenir milliardaire?
Là, je sais pas trop, gagner l'auto, peut-être.
Voilà.
Non, mais c'est trop beau, quoi. À mon avis, c'est un rêve que Sega...
Alors, il y a pas longtemps, avant que Sega fasse vraiment du multi-support, il y en a qui disaient que Sega était en train d'essayer de gagner des thunes, donc de se refaire, de remplir leurs dettes. Et pour peut-être se relancer. Maintenant, quand on sait qu'il y a des rumeurs comme ça, quand on sait que tous les jeux Sega ne sortiront que sur du multi-support et tout ça, on peut se dire il y a peut-être plus aucune chance, ou alors dans très longtemps.
En fait, il y a un petit espoir parce qu'il y a moins d'un an. En fait, vous connaissez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai un petit peu de mal à vous expliquer. C'est le système de brevets.
Oui.
Et Sega avait en fait reconfirmé le brevet de la Dreamcast ainsi que le brevet du système de Lucan, je crois.
Ouais.
Alors, le plus important, c'est la Dreamcast. Forcément, on a des espoirs quand on se dit.
Non, mais
Ouais.
un brevet, ça se dépose pas autant à l'avance, hein, je pense déjà. Et il y a de grandes chances que ce soit plutôt pour des encore des retapages des jeux Dreamcast sur Wii, des trucs comme ça.
Voilà.
Et alors,
Moi,
il y
j'y
a une
crois pas du
possibilité
tout.
aussi, ce serait que les jeux Dreamcast aillent sur la console virtuelle.
Oui, mais sérieusement, moi, j'en ai pas envie du tout.
Bah, sérieusement, Sonic Adventure à la Wiimote.
Moi, j'aurais tendance à dire,
Non,
comme dit,
non,
comme
non,
dit.
mon Dieu, non, pitié.
Moi, j'aurais tendance à dire, comme si Nintendo, la Dreamcast, c'est la Dreamcast, la console virtuelle, c'est la console virtuelle. Voilà, c'était la
C'est
situation.
profond, c'est profond.
Voilà. Non,
Non,
sérieusement,
sérieusement, est-ce que vous voudriez jouer à Shenmue à la Wiimote? Non, mais c'est. Moi, je refuse. Je cautionne pas.
Voilà. Donc non, mais on peut se dire que peut-être plus tard, dans des jours meilleurs pour Sega, peut-être qu'il y aura une Dreamcast 2. Alors il y a eu beaucoup de fakes qui ont tourné sur le net,
Il
qui ont...
l'appellerait pas Dreamcast déjà parce que
Ça,
ce serait
moi
trop
je...
synonyme d'échec.
Est-ce que c'est rapporté comme poisse?
Ouais, mais
Voilà.
en même temps, Dreamcast c'est le synonyme de toute une génération, j'ai envie de dire.
Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y aura sûrement pas assez de place pour 4 constructeurs.
Oui, sûrement déjà, ils sont assez overbookés comme ça.
Voilà. Déjà, il y a Sony, Microsoft et Nintendo. Déjà, c'est une grosse, grosse guerre. Alors, à part Nintendo qui sort du lot avec la Wii, la 360 et la PS3, c'est une véritable bataille, quoi.
Ils sont pas prêts de
Oh,
lâcher, quoi, sérieux.
y a ceux qui disent, oh, la PS3, elle est meilleure, elle a des graphismes plus puissants, puis la 360.
Je déteste.
Oh,
Je déteste ce
et
genre
le
de
lag, et le
compétition de
lag.
vidéo.
Voilà. Et donc, bah, on va conclure là-dessus, je pense. Un dernier petit mot sur toute cette période Saturn Dreamcast et sur la fin de Sega en tant que constructeur hardware.
La
Moi, je l'ai
Dreamcast
acheté.
c'était un peu l'espoir quoi, mais bon, la fin de Sega c'est un peu l'âge noir quoi, donc voilà. On
Voilà,
espère qu'ils ont la poussée.
on va finir ce
Moi,
podcast
si
sur
je
un
peux me
petit
permettre.
œil.
Et je tiens à dire Sega Fredo.
Voilà.
Oui, ça c'est profond, merci.
Voilà, Fredo, Sega, c'est
Il
Sega
fallait que je le
Fredo.
dise.
C'est. Bon, merci. Moi je dis acheter une Dreamcast, sérieusement, ça coûte plus rien du tout, il y a des jeux terribles. Franchement, il n'y a rien à perdre à acheter une Dreamcast.
Facile à graver en plus, donc bon.
Facile à graver, oui, mais ça il faut pas le dire.
En plus,
Non,
ça coûte
mais
vraiment pas
je connais
cher,
plein de
20
gens qui
euros
l'achètent
et.
comme ça.
Oui, mais franchement, c'est.
En même
On peut se faire,
temps,
ils ont
on
trouvé
peut
à
se
20
faire une
euros et
ludo.
c'est cash.
On peut se faire une ludothèque d'enfer sur Dreamcast pour moins de 200 euros, je pense. Donc,
Ouais, ça c'est
franchement,
clair.
c'est
Ouais.
vraiment, vraiment, j'incite tous ceux
Ok.
qui hésitent
Puis
à
quand elle
se
est
prendre une
trempée,
Dreamcast.
fonctionne encore.
Oui, voilà. C'est la
On va vous
console.
faire
Elle
le
est
test.
waterproof.
On va vous faire le test.
Voilà.
Avec photo.
Quelqu'un, tu voulais dire quelque chose?
Oui, j'avais envie de dire Sega Tassanchiro. Tout simplement.
Gada, Sanchiro.
On
Sega,
fera ça à la fin.
sors-toi.
Voilà, moi j'ai envie de dire, pendant toute sa vie, Sega sera toujours plus fort que toi. Et
Ouais,
j'ai
ça
envie de
c'est.
dire, Dreamcast, morte ou pas, il y aura toujours 6 milliards de joueurs. Pile. Attention, pas 6 milliards et un joueur, 6 milliards, pile. Voilà. Ça
C'est donc ça.
sera tout pour conclure ce podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast spécial Super Smash Bros. Pour
Non.
fêter la sortie de Super Smash Bros. Brawl.
Adieu. Non, je
Avec
peux.
des fans en délire. Et on vous fera une petite rétrospective et il y aura sûrement un test, un petit
Smash
test
Bros.
de.
Smash Bros.
Voilà.
Fredo, tu viendras, tu joueras le rôle de Sabaka.
Et on ne vous donne pas rendez-vous pour un podcast Mother, non? Non,
Bon,
merci.
achetez Marvel vs Capcom 2 plutôt que Smash Bros. Pitié, c'est largement mieux.
Non, un Power Stone, Power Stone.
On
C'est
va
le
faire Smash
Smash
Bros
Bros
parce que
cette
Smash
année.
Bros c'est le meilleur jeu au monde.
Non,
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 c'est
non,
faux.
non.
Il faut
Non,
pas
non,
dire
c'est
ça.
juste
Dans une
Capcom.
semaine.
Jezelan, c'est une vraie groupie quand on parle de Super Smash Bros. Donc,
On peut faire
attention.
un podcast sur Home Alone 2 sur SNES.
Et quoi, ce réalisateur de Pikachu?
Voilà.
Ouais,
Euh,
c'était qui
donc
ton
c'était
Pikachu?
la deuxième partie du podcast Sega et la dernière partie. J'espère que dans longtemps on pourra vous faire une troisième partie quand Sega aura peut-être un jour ressorti une console ou pas. Euh,
D'accord.
donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci aux deux invités qui sont venus.
Ça me fait plaisir.
On vous les retrouverez sûrement dans peut-être d'autres podcasts consacré peut-être à Shenmue ou à d'autres séries.
De loin, ces gars.
Voilà.
Je reviens.
Je remercie Prince of Persia et Xelan, les deux rédacteurs du site, d'être fidèles au poste, j'ai envie de dire.
Ouais.
Pas comme d'autres.
Pas comme ceux qui veulent Mother.
Voilà. Pas comme d'autres.
Ça, ça vient du fond du cœur, apparemment.
Si jamais vous voulez écouter un podcast Mother, je vous conseille les jeux que Sabaka aime, comme.
Vous êtes des putes,
bon, ça part un peu trop en privé joke, je pense. Et voilà. Et donc, sur une ambiance de folie et non pas sur un deuil de Dreamcast, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Salut, salut.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.